LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Lucienne B., née à Paris le 13 octobre 1899, internée sur placement d'office le 2 avril 1952, présente un état démentiel avec propos marqués de causticité, troubles mystiques, possibilité de séquences d'intoxication éthylique avec fabulation, mobilité de l'humeur avec pleurs et attitude dépressive, vague hypochondrie, incurie de soi, à maintenir. Donc ce « à maintenir », on le retrouve quasiment dans tous les ordres de placement. Par exemple, on a André A., né à Paris le 3 avril 1910, interné sur réquisitoire le 19 octobre 1951, état dépressif très atypique, maintes fois interné depuis l'âge de 19 ans, étrangeté du comportement, troubles associatifs, stéréotypie motrice, fléchissement affectif, impulsion au suicide, fond de débilité mentale, pourrait bénéficier d'un traitement par électrochoc à maintenir.
Déshérence. Olivier Chaumel, François Test. Aujourd'hui, l'asile pour femmes de Maison Blanche.
On est un asile qui a été construit en 1900, quand même assez isolé, assez à l'écart de Paris. Je crois qu'on est à entre 12-13 kilomètres de la capitale. Et effectivement, on est sur une emprise au sol qui est assez importante. Je crois qu'il y a 64 hectares en tout, hein. C'est quand même assez important. Donc une entrée principale qui se fait depuis la nationale. Le long de cette nationale, il y a un grand parc arboré. C'est extrêmement boisé, on le voit, hein. C'est aussi pour ça que la nature a repris beaucoup de place là-bas dans l'asile. Et puis là, il y a la partie très ancienne avec le mail. Donc le mail qui était cette espèce d'avenue plantée de marronniers avec des petits passages à couvert qui rappellent un peu, si on connaît... les termes de Vichy, quoi, c'est un peu la même époque. Du côté sud de la nationale, il y a Villévrard, qui, je crois, donc était l'asile des hommes. Antonin Artaud, il y a séjourné, par exemple. Et au nord de la nationale, donc, il y avait Maison Blanche, qui était un asile, enfin, qui est décrit comme tel, comme un asile de femmes. Le 7e asile de la Seine, asile de femmes.
Le destin de cet asile d'aliénés, aujourd'hui on dit hôpital psychiatrique, fut hésitant. Pendant sa construction sur un vaste terrain boisé à Neuilly-sur-Marne dans les dernières années du 19e siècle, on prévoyait d'y interner 700 femmes et 500 hommes, pour la plupart des malades alcooliques. Et finalement, en cours de route, on a décidé de n'y placer que des femmes. Les alcooliques sont allés se sevrer ailleurs. Petit à petit, à la faveur de la construction de nouveaux pavillons, la capacité de Maison Blanche a été portée à presque 3000 lits. De l'autre côté de la route nationale se trouve l'hôpital Villévrard, où furent internés Camille Claudel et Antonin Artaud, parmi des milliers d'autres aliénés, et cette proximité entre les deux hôpitaux se faisant face conférait à Neuilly-sur-Marne une densité exceptionnelle en malades mentaux, lesquels étaient plutôt admis par la population générale, faisant partie du décor.
On a transformé au fil du XXe siècle les appellations concernant les hôpitaux psychiatriques. On est passé de l'EPSM à l'hôpital psychiatrique, et au tout début c'était l'asile. Et l'asile... symboliquement, ça reste extrêmement fort, c'est avant tout un lieu d'accueil. Et pour ma part, c'était extrêmement important de défendre que l'asile avait été pensé d'abord pour accueillir ces femmes, même si c'était loin de Paris, même si c'était dans des conditions difficiles, il y avait une dimension forte et qui renvoyait une certaine humanité aussi de ces lieux.
Jean Noviel.
Oui.
Franck Enjolras. Ça fait quelques années que vous n'êtes pas venu... La Maison Blanche, quel changement vous constatez ?
Moi j'y suis repassé parfois, mais de manière très...
Jean Noviel.
Très parcellaire en fait, sans pouvoir retourner à l'intérieur du parc lui-même, puisqu'on n'avait pas les autorisations pour. C'est une drôle d'impression de revenir là en fait, ça me saisit quoi. Et ça donne envie de repartir, de recheminer quoi. Cette idée de retrouver un lieu dans lequel on est happé quoi, comme ça on se sent saisi par... à la fois le vide et puis l'histoire qu'il y a pu avoir là. Et quand je revois les détails, en fait, je me revois effectivement avec Franck en train d'arpenter les lieux, de chercher, de cheminer dans cet espace. Et d'un seul coup, j'ai l'impression que rien ne s'est interrompu, quoi. En tout cas, là, il y a la sculpture, une bonne entrée, voilà, qui est cette femme à la toilette qui me fascinait vraiment, parce que je venais là tous les matins, c'était le chemin pour accéder donc au site.
C'est une statue à taille réelle, en ciment, en marbre peut-être.
En marbre, oui, elle est en marbre. Elle est posée comme ça sur un petit socle au milieu d'un bassin qui devait être donc alimenté en eau, évidemment, puisqu'on voit encore des petites résurgences en cuivre, en laiton. Et oui, c'est une femme, je sais pas, je trouvais que c'était toujours très doux. Elle est donc nue, elle est posée sur une serviette. Et elle est en train de se sécher ou en tout cas de prendre soin d'elle. Et je trouvais que c'était un peu à l'image aussi du projet qu'on avait entamé avec Franck. C'est aussi pour ça qu'on finalement l'a mise en couverture du livre. Parce qu'à la fois ça évoque cette douceur et puis le soin, enfin la manière dont cette femme essaye de rester digne, belle, dans son soin quotidien. Et l'asile avait aussi vocation de ça d'une certaine manière, quoi, à soigner et à faire en sorte que ces femmes d'une certaine manière aillent mieux, enfin on ose l'espérer, indépendamment de ce qui pouvait se passer dans l'asile.
Beaucoup de bâtiments ont disparu, semble-t-il, Franck Engelras.
Pour l'instant je ne sais pas trop, j'ai l'impression qu'il y a encore énormément de bâtiments. Je suis assez surpris de me rendre compte que les choses dans leur apparence sont restées un peu comme on les a découvertes la première fois. Évidemment, quand on est un peu loin, on pourrait avoir l'impression que c'est encore en fonctionnement. Quand on se rapproche et qu'on voit les carreaux brisés des fenêtres du bâtiment, on voit bien qu'on est face à un lieu de déshérence, un lieu en train de disparaître. Donc un sentiment double. Il y a une sorte d'excitation à vouloir arpenter de nouveau ce lieu, le redécouvrir. Et à la fois, c'est des souvenirs personnels de travail dans des structures de ce type-là. J'ai eu l'occasion pendant mes études de faire un stage à l'hôpital de Bailleul, qui était lui aussi un asile dans le Nord, qui était un asile psychiatrique à peu près sur le même format que Maison Blanche, qui a même précédé Maison Blanche dans sa construction. Donc c'est des souvenirs aussi de ma formation d'interne en psychiatrie puis de psychiatre. Et au fronton de ce bâtiment, on a quatre sculptures, deux très identifiables et très connues, Pinel et Esquirol. Je dirais les pères fondateurs de la psychiatrie dans ce qu'elle est aujourd'hui. À l'époque, on les considérait comme des aliénistes. On était encore sur le modèle de l'aliénation. Mais ce sont eux qui ont pensé ces lieux pour accueillir les gens qui souffraient de pathologies mentales, comme on le dit aujourd'hui. Donc ça a quelque chose, pour ma part, d'assez emblématique. Enfin, c'est symboliquement très fort d'avoir au fronton ces personnages d'une histoire, d'une discipline, qui est une discipline médicale et qui est une discipline aussi d'accueil, de protection. Donc voilà, on est face à ce bâtiment et je trouve que c'est quelque chose d'assez fort.
On s'approche de ce qui a l'apparence d'un château en ville. Michel Kerr, vous avez été chef de service à Maison Blanche. À quelle période ?
Alors, à Maison Blanche, j'ai été médecin psychiatre de 1983 à 2017, et j'ai été chef de service à partir de 1997.
Pourquoi cet hôpital, si vaste, avec son grand parc, a-t-il été destiné aux femmes ? Parce que ça n'était pas stipulé dans le projet initial. On avait prévu d'y hospitaliser, je crois, 500 hommes, essentiellement des alcooliques, et 700 femmes.
Le projet initial était en relation avec les besoins de l'époque. C'est-à-dire qu'on manquait de lits de femmes dans les autres établissements qui existaient précédemment. Il y avait déjà 4 asiles, Maison-Blanche étant le 5e asile du département. Et donc, à l'époque où on a conçu le projet, il y avait des besoins en lits de femmes et en lits pour les hommes alcooliques. Et assez vraisemblablement du fait qu'à Ville-Évrard, autre asile du département, avait ouvert,
de l'autre côté de l'avenue.
Exactement, de l'autre côté de la nationale, à Ville-Évrard avait ouvert un service pour alcooliques qui ne s'occupait que de malades alcooliques. On a considéré qu'il y avait plus besoin de lits de femmes que de lits pour alcooliques, et donc on a décidé de réserver l'établissement exclusivement aux femmes.
– Jean Neuviel, lorsque vous êtes allé à Maison Blanche avec le psychiatre Franck Enjolras, d'abord dites-moi quand c'était et combien de fois avez-vous appuyé sur le déclencheur ?
Alors moi j'ai commencé à travailler dans cet asile dans le cadre d'un projet de tournage de film, c'était en 2015. Première fois, j'ai dû faire une vingtaine de photographies, pas plus, qui était une version donc très frontale en fait, hein, très violente, où il y avait, c'était des diptyques, donc une vue couleur du lieu dans sa dévastation, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
À quoi est-ce qu'elle ressemblait cette dévastation ?
Bah, il y avait d'une part la démolition physique des lieux, hein, c'est-à-dire ça allait jusqu'aux fenêtres brisées, les lavabos cassés, des espadrilles, des jeux de tarot, il y avait des poupées sans tête, des valises éventrées, il y avait des collants qui traînaient, des radiographies, des lettres, enfin il y avait toutes ces choses-là, des papiers peints arrachés, il y avait... Bon, et puis surtout à l'extérieur, il y avait aussi toute la végétation qui commençait à reprendre possession des lieux, quoi. Donc du lierre qui poussait sur les fenêtres, des arbustes qui rentraient dans le bâtiment, des stores... éventré, enfin, il y avait vraiment quelque chose de voilà, mais qui pourtant qui est pas du tout dans ma fascination pour l'image, quoi. C'est, je suis pas du tout penché sur l'urbex, encore une fois. Bah, c'est comme un départ, quoi. Enfin, comme quelque chose de très précipité. Donc, on emporte tout ce qu'on peut emporter, claque, voilà. Il reste ce qui peut rester. Et puis après, c'est livre au pillage. Donc, en fait, les gens passent, s'approprient d'autres choses, par plaisir peut-être continuent à casser ce qui reste à démolir. Bon.
Et puis, Jean Neuviel, vous tombez parfois sur des sacs en toile qui contiennent des dossiers de patientes.
Alors en l'occurrence, là, c'était pas des sacs, c'était des cartons. Enfin, ça change rien. Des cartons qui étaient tout moisis, tout pliés d'humidité, et dans lesquels, en tirant un peu des étagères, il y avait des dossiers. Des dossiers de patientes, des dossiers médicaux, et puis des registres de rentrée, de sortie, tout un tas de documents. Il y avait bien sûr les lettres, les heures de placement, les effets personnels, les avis de pompe funèbre. Enfin, il y avait vraiment, c'était assez impressionnant. Mais comment se fait-il que ce pan de la mémoire-là, ce pan, c'est un peu notre histoire, quoi qu'il arrive. Quand on lit ces lettres, les dossiers que j'ai trouvés partent des années 10 jusqu'aux années 50. C'est quand même un demi-siècle bouleversé par des guerres, avec plein de choses qui sont racontées dans ces lettres, en fait, d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas en creux, des messages qui sont dits, de la manière dont ça parle aussi des relations hommes-femmes, de l'émancipation des femmes, etc. Enfin, c'est un pan de notre histoire qui est là-dedans. Et comment ça se fait que c'est au fond d'une cave à moisir, ça, bon. On a reproduit ces dossiers le plus possible, en se disant qu'on allait en sauver quelque chose, pour les transmettre ensuite aux archives. Enfin, c'était l'objet, quoi.
Vous avez contribué à sauver ce fond-là.
Oui, ce fond-là, il n'y a pas de raison. Après, c'est pas ce fond qui faisait sûrement défaut aux archives de la psychiatrie en France, mais qu'importe, l'idée c'était de ne pas laisser ça à la merci des pelleteuses et des gravats qui ont complètement dévasté le lieu, quoi. Enfin, c'était ça, l'idée.
Lettre d'une patiente de Maison Blanche. Ils appelaient cette maison la chirurgie de l'ancienne blanchisseuse, car elle y fait journellement l'opération de la salpingite par la suggestion du spiritisme des anciennes blanchisseuses, comme ils les appellent. Car il leur ferait faire le spiritisme et les gestes de la physique, comme il y a des malheureuses que j'ai vues à la salpêtrière. Le mari de l'ancienne blanchisseuse travaillait dans les imprimeries et suggestionnait avec la nouvelle blanchisseuse, avec qui il vit en ce moment, avec la physionomie de l'ancienne blanchisseuse, arrachait les voix des imprimeurs intérieurement pour les suggestionner dans le téléphone, pour ne pas faire voir que c'était le mari de la blanchisseuse qui suggestionnait avec la justice ou dans les bureaux des médecins des aliénés.
C'était quoi la fonction de ce château qui s'appelle à peu près officiellement comme ça ?
C'est un bâtiment administratif par lequel les malades ne passaient quasiment pas, à mon avis. Pour ce qui est de l'accueil spécifique médical, ça devait se tenir dans un autre bâtiment. Mais donc là, on est dans, on va dire, la fonction administrative de l'hôpital et autrefois de l'asile. Parce que ce bâtiment est un bâtiment originel. Il était présent déjà en 1900.
Donc il y a quatre bustes sur la façade.
Les deux figures centrales, évidemment, sont les plus connues et sont restées dans l'histoire de la psychiatrie, notamment Pinel avec cette fameuse mythologie qui consiste à dire qu'il a libéré les fous de leur chaîne. et Esquirol qui était son élève et qui a établi un traité extrêmement important qui nous fait sortir de cette conception de la folie pour aller vers l'aliénation mentale avec comme principe central, il existe chez ces malades de la déraison, mais il y a certainement une raison encore accessible et dont on doit travailler pour qu'ils puissent recouvrir une partie de cette raison. Donc c'est vraiment les pères fondateurs de la dynamique de la psychiatrie, à savoir considérer ces personnes comme des êtres humains et de pouvoir les libérer de l'aliénation. Le 19e est évidemment le siècle de la révolution industrielle, mais c'est aussi le siècle, une espèce d'espérance du progrès, et je crois qu'il y avait une espérance très forte dans le travail de ces médecins qui espéraient sauver ces malades, ou au moins les guérir, avec peu de moyens à l'époque, ce qui a pu justifier ces enfermements de très très longue durée, de plusieurs années, mais il y avait quand même derrière quelque chose qui dépassait le simple enfermement au sens strict pour protéger la société de ces personnes-là, chose sur laquelle on a beaucoup glosé. Évidemment, Michel Foucault a insisté lourdement sur le grand renfermement, mais c'est une vision, je dirais, un peu tronquée si on fait référence à d'autres travaux qui mettent en évidence qu'on était aussi là pour soigner les gens dans un principe démocratique, et ça c'est extrêmement important à rappeler.
Les billets, donc c'est des papiers assez fins en fait, hein. On est vraiment presque sur du papier bible par endroit, des cartons, c'est assez... une diversité de petites choses comme ça, des petits billets, des petites lettres. Et c'est des formats qu'on n'a plus l'habitude d'ailleurs de voir. Monsieur, cher confrère, il semble aussi que pour la malade dont vous voulez bien me parler dans votre lettre, l'internement commence à se prolonger un peu trop. Et que la protestation du mari est à l'heure actuelle exagérée.
C'est un médecin qui écrit à un autre médecin?
Souvent, oui. Ben, c'était ça qui nous avait intéressé, c'était d'établir à partir de ces lettres les espèces de liens qui pouvaient se faire entre l'extérieur et l'intérieur, en fait. Ce sont les médecins qui s'écrivent entre eux, ou bien le mari qui s'adresse au médecin, la femme qui répond, vous voyez. Puis ce qui est étonnant, c'est qu'il y a toujours cette autorité, vous voyez, cette déférence, cher confrère, mon cher médecin, enfin, il y a une espèce de, comme ça, de hiérarchie très importante dans cette... Donc là, il y a des tableaux annuels de menstruation.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Alors moi, j'interprète un peu, peut-être, hein, mais on dit toujours que l'hystérie, c'était le siège de la folie, hein, et que c'était l'utérus aussi, donc je sais pas pourquoi on vérifiait que ces femmes avaient leurs règles comme il faut, je sais pas comment interpréter ça, mais en tout cas, c'est toujours d'une violence assez folle. Hein. Par exemple, ici, on a un certificat de quinzaine, voilà. Un placement d'office. Donc ça veut dire que c'est sur décision judiciaire, placement d'office. Il y avait le placement volontaire, qui était en fait pas du tout volontaire, qui était à la demande d'un tiers, souvent le mari ou le frère, enfin bon, c'est ce qui a été le cas de Camille Claudel, par exemple, qui a été placé par sa famille. Et puis après, il y avait le placement d'office. Alors, le placement d'office, c'est vraiment sur, soit pour trouble à l'ordre public, soit arrestation, soit vraiment, voilà. Donc, là, c'est une patiente qui s'appelle Renée, donc présente le même syndrome mental qu'à l'entrée. Trouble profond du jugement et de l'autocritique, contrastant avec l'intégrité de l'attention et de la mémoire. Automatisme mental, action extérieure, s'exerçant sur elle-même, sentiment d'étrangeté, déficit d'affectivité à maintenir. Boum.
Jusque à la fin des années 50, toutes les personnes qui séjournaient à Maison-Blanche, mais comme dans la plupart des établissements français, étaient sous le régime de l'internement, comme on dit. Hein. C'est-à-dire étaient placées, soit sur ordre de l'autorité préfectorale, le préfet de police à Paris, et puis les préfets dans les départements, soit sur demande de la famille. Et pendant longtemps, la grande majorité, c'était des placements d'office. Donc décision de l'autorité publique. Et la décision de sortie était prise par la même autorité, sur demande du médecin du service, mais la décision revenait en fait à la préfecture de police à Paris. Donc ce qui explique aussi la durée des séjours.
C'est ce qu'on retrouve assez fréquemment. Venez dans cette salle par là, vous allez voir. En fait, Bon, la dégradation, elle n'a fait que s'accentuer, en fait. Là, c'est vraiment... On est rentré là vraiment dans un truc où bon, c'est la déglingue totale, les faux plafonds, tout est écroulé. Enfin, là c'est même plus photographiable en fait. Enfin, si j'ose dire, je veux dire là, ça devient vraiment un truc d'urbex dans la grande déglingue, si j'ose dire. Mais en tout cas, il y a une chose qui est importante à mentionner ici à Maison Blanche, c'est le dallage qui est spécifique hein, et qui nous a permis d'identifier pas mal de choses. C'est justement
une signature de l'établissement.
Ça permet vraiment d'identifier sans se tromper effectivement le motif. Ce carrelage dans cette partie des bâtiments qui est donc la plus ancienne et que moi c'est là que j'ai beaucoup photographié en fait dans cette partie là.
Et la fonction de cette salle où nous sommes là, ce serait quoi?
Un réfectoire. Contrairement à ce qu'on imagine dans cette idée de l'enfermement ou voilà. En fait, c'était quand même des espaces qui étaient assez ouverts et qui étaient pensés aussi dans un esprit d'ouverture. Enfin, il me semble moi que l'architecture elle témoigne de ça. Construire un bâtiment comme ça en 1900 pour accueillir des gens pour les soigner, on sent qu'il y avait une volonté de faire quelque chose, quoi, que c'était pas simplement temporaire. Quoi. Et les escaliers sont assez larges, enfin, on est...
Et aujourd'hui, bien déglingué.
Là, il y a l'escalier. Vous voyez, quand je parlais des hauteurs sous plafond, on entend, c'est presque une cathédrale, on est dans un truc... Vous voyez, puis bon, bah, voilà, alors moi, ça me rappelle la déambulation complète dans laquelle on était comme des... Vous voyez, on était là-dedans, voilà, les chambres, on rentre, on est à nouveau dans sur la tête, parce qu'il y a des bouts de bois partout. Mais... Oui. Et là, on rentre à nouveau dans un pavillon, alors là, il y a une espèce de cuisine, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, et on retrouve chaque fois ce modèle de fenestron. Là. C'est des plaques de propreté, mais des fenestrons avec le grillage sécurité, à chaque fois, comme ça, il y a toujours cette volonté que, même dans les pièces, j'allais dire, sanitaires, il y avait toujours cette possibilité d'être observé. Hein? Il y a toujours qu'il y ait une surveillance quand même.
Oui.
On est. On retrouve ce côté justement carcéral quoi.
Et votre CFDT, c'est d'époque.
Dernièrement, ils ont lâché une quantité de voix des Italiens qui ont tombé sur la tête des Français. C'est pour cela qu'ils vous font téléphoner, pour arracher les voix de la justice et celles des employés des administrations. J'ai emménagé, moi et mon mari, naturellement, le 4 avril dernier, rue Richaume, numéro 4. J'ai donc reconnu la belle blanchisseuse dans les escaliers chez qui j'avais servi il y a 10 ans et qui pratiquait ses louches manœuvres. La femme avec qui je couchais m'avait bien prévenue, je n'y croyais rien. Je croyais que c'était des méchancetés, mais ce n'était que trop vrai. À ce moment, il donnait un dîner, donc toujours chez la belle blanchisseuse, rue de Lamarre, au pied des escaliers pour aller à la gare de Ménilmontant. Ils étaient 12 personnes à table, donc 6 ménages et une jeune fille. Ils appelaient ça le dîner de la résurrection, et je les ai servis à table. C'étaient des résurrectionnés.
Il y a cette fascination pour l'enfermement, quand même, ce que ça signifie. Enfin, c'est quand même des bâtiments qui sont glaçants. Enfin, il y a une spatialisation. On parlait tout à l'heure de rapport à l'administration. Il y a effectivement quelque chose de l'ordre du carcéral. Enfin, ça se sent dans la manière dont les espaces sont conçus, dans la manière dont les chambres sont imaginées, les hublots, les accès à l'extérieur, etc., les murs d'enceinte. Donc, on s'imagine toujours, effectivement, que entre ces murs se passent des choses qui nous échappent.
Et il y a des verrous, des judas.
Effectivement, des verrous extérieurs pour pouvoir cadenasser le patient dans sa chambre. Des lits qui sont fixés au sol. Des baignoires qui sont aussi boulonnées dans le carrelage, etc. Donc, on sent bien la violence de ce qui peut se passer là-dedans. Alors, on peut en critiquer l'usage, la façon dont ils ont été pensés, la façon dont on mettait à l'écart la folie des centres-villes, comme on a fini par mettre les cimetières à l'écart des villages, en fait. Bon, d'une certaine manière, c'est des choses qu'on ne veut pas voir. Toujours est-il que, et puis je l'ai redécouvert aussi dans les films, dans les films de Raymond Depardon, ou Sainte-Clémente, ou ces choses-là, l'asile avait aussi vocation à soigner au sens... de réhabiliter l'individu, dans ce qu'aujourd'hui on pourrait dire prendre soin, enfin voilà, cette idée qui avait aussi des façons de soigner qui ne sont pas celles d'aujourd'hui, quoi, ça c'est sûr.
J'ai lu Franck Enjolras une liste de diagnostics, et on parle de mélancolie, débilité mentale,
alcoolisme chronique, démence sénile, confusion mentale, etc. Finalement, tout ça, c'est assez contemporain. Enfin, ça reste contemporain.
Le savoir psychiatrique s'est forgé, pour ce qui est de son aspect descriptif, assez tôt. Et aujourd'hui, évidemment, même si les diagnostics ont été transformés, certains abandonnés par l'évolution des classifications, notamment américaines, on n'a rien inventé aujourd'hui par rapport au fait de décrire ou de poser un diagnostic. Là où les choses ont grandement évolué, ça a été dans la manière de soigner les gens, de les accompagner, de comprendre leur environnement, de voir sur qui s'appuyer pour les aider. Mais c'est vrai que pour ce qui est des aspects descriptifs, ils étaient déjà établis début du XXe siècle, en 1900 et quelques, à Maison-Blanche, et qu'aujourd'hui, dans les dossiers médicaux d'un service d'urgence, on fait exactement les mêmes diagnostics, à quelques différences près. Évidemment, il y a des diagnostics qui sont sortis des nosographies, en l'occurrence celui de débilité mentale, voire d'hystérie, pour tout un tas de raisons que vos auditeurs doivent connaître. Voilà, mais évidemment que pour ce qui est du registre de poser un diagnostic, il y a un fil continu. Ce qui était pour le coup assez intéressant aussi de le découvrir de facto sur des dossiers écrits à la main.
Lucie A, née le 3 octobre 1931 à Paris, internée sur placement volontaire le 16 juin 1952, syndrome frustre d'automatisme mental, hallucination auditive, on lui donne des conseils, on la dirige à distance, on l'appelle, et elle sort pour répondre à ses appels. Est atteinte d'ineptie profonde, trouble du caractère, délire flou d'influence et de viol nocturne, malade s'isolant des autres malades, parle peu, souvent dans sa langue natale. Aujourd'hui était anxieuse, tuez-moi, je veux mourir, a subi 7 électrochocs depuis 3 semaines sans modification du comportement à maintenir.
Les trois grandes découvertes thérapeutiques des années 30, dont une seule est restée jusqu'à nos jours, c'est la cure de Sakel, qui était en fait, ou insulinothérapie, qui consistait à provoquer des comas hypoglycémiques. On a considéré que c'était le premier traitement biologique de la schizophrénie, qu'on appelait encore souvent démence précoce, et qui, pour les gens qui n'exagéraient pas, permettait de guérir, alors on va mettre des guillemets à guérir, à peu près un tiers des malades traités, et améliorer un autre tiers, mais avec quand même une mortalité loin d'être négligeable.
Dû au coma
qui, parfois, les malades ne ressortaient pas du coma. Le deuxième traitement, ce sont les convulsivothérapies, dont celle qui a été considérée comme la meilleure utilisait l'électricité. Ça s'appelle les électrochocs. Donc l'électroconvulsivothérapie, et, qui a été découverte en 1938. Et celle-là est encore en usage aujourd'hui, et dans des conditions très différentes des conditions initiales. On a continué à avoir recours à l'électrochoc, notamment, et c'est presque la dernière indication où vraiment on peut avoir des résultats très intéressants, c'est dans les dépressions gravissimes. Et la troisième découverte thérapeutique, alors, qui aujourd'hui, Dieu merci, n'est plus utilisée, c'est la lobotomie. Découverte en 1935-36, très peu utilisée ou quasiment peu utilisée en France jusque dans l'après-guerre, tandis que dans les pays anglo-saxons, en Amérique latine, etc., ça a été très employé au début des années 40.
Et tout ça s'est pratiqué jusqu'à quelle époque,
Jacques Kerr ? En France, la période de lobotomie assez importante a commencé dans les années 46-47. Pendant les années 50, encore un grand nombre, notamment la première partie des années 50, et ça a commencé à décroître après l'apparition des premiers psychotropes neuroleptiques. Tout ça, donc, fait vraiment partie du passé. Donc, je précise. Et alors, la découverte des médicaments, ça a été un vrai changement, puisque on pouvait traiter les gens en dehors de l'hôpital.
Franck Enjolras, lorsque vous êtes venu avec Jean Noviel pour fouiller un petit peu ce qui restait de l'hôpital Maison-Blanche, est-ce que vous attendiez à trouver ce que vous avez trouvé ?
On n'avait pas idée du tout. Et alors, Bon, c'est Jean qui a découvert ce qu'on pourrait qualifier d'un petit trésor, parce que ça venait tempérer cette vision à sensation de ce lieu marqué par tout un tas de fantasmes. Évidemment que c'était pour le moins étonnant de découvrir que des dossiers avaient été abandonnés en quantité très importante, parce que on a versé aux archives quasiment une centaine ou 200 dossiers de malades hospitalisés avant 14 sur le site de Maison Blanche. Donc c'était là pour le coup tout autant fascinant de se rendre compte que volontairement ou involontairement une certaine mémoire de ce lieu avait été abandonnée. Les murs traduisent qu'une partielle vérité, alors que ces dossiers en donnent une autre lecture. Et donc c'était pour nous important de se plonger dedans et d'en faire quelque chose. Quand on regarde le site et qu'on l'appréhende comme ça dans son délabrement, on a l'impression d'être face à une machine à sensations et à fantasmes. Je crois que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens fréquentent ces lieux dégradés, en déshérence. Toute la communauté des gens qui fréquentent l'urbex viennent chercher des sensations. Et quand on a travaillé avec Jean, c'était aussi se départir de ces sensations et de ces fantasmes pour rétablir un peu le curseur et les courriers de ces femmes, à mon avis, enfin pour ma part, venaient un peu pondérer cette machine à sensations, parce qu'en fait ça ne dit qu'une part de réalité, ces bâtiments délabrés. Et donc on a eu cette ambition à chaque fois de rééquilibrer les choses, de rappeler qu'il y avait aussi une humanité là-dedans, qu'il y avait des gens qui s'occupaient des autres, qu'on était dans le souci de l'autre avec les moyens qu'on pouvait avoir à disposition au début du XXe siècle. Donc voilà, il faut aussi rappeler ça, c'est-à-dire que c'est de remettre ça en perspective. Et avec Jean, on a eu ce souci commun de remettre les choses en perspective.
Attention, il y a un énorme trou. Là, on est vraiment au cœur de l'asile, quoi. Enfin,
c'est ce que j'appelle le mail. Donc, c'est une allée plantée d'arbres.
Des marronniers.
Très large. Je suis stupéfait par le gigantisme de l'emprise.
Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je dis qu'on est là, on est donc Maison Blanche, donc c'était le 7e asile de la Seine. Donc, il y avait vraiment une volonté programmatique autour de cette prise en charge comme ça de la psychiatrie. En tout cas, ce qu'on voit là, il y a quand même un aspect, je vais utiliser un mot un peu brutal, mais un peu concentrationnaire, quoi. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans une disposition spatiale de la déambulation, réservée aux patients, avec des espaces quand même assez ouverts et parfois très refermés, des petits passages à couvert, ces espaces de gigantisme au milieu. Toutes ces fenêtres, encore une fois, alignées. Regardez, quand on voit les façades, on a vraiment l'impression qu'il y a une... Voilà, ici, on pouvait accueillir jusqu'à 5000 patients. Enfin, je pense que ce chiffre n'a jamais été atteint. Au plus haut, on devait être à 2000 ou 3000 patientes dans les années entre-deux-guerres, si ma mémoire est bonne. Mais en vérité, on se rend compte que de l'importance de tous ces bâtiments. Alors, il y avait aussi, évidemment, le personnel soignant qui vivait sur place, enfin, partiellement. Mais quand même, ça laisse. Ça, moi, quand j'étais là au tout début, ça me revient, c'est ces moments-là aussi, de perdition. Enfin, c'est un espace dans lequel on peut se perdre, vraiment.
Ici, on est dans un espace quand même assez ouvert et où on peut certes se perdre, mais aussi se retrouver un petit peu dans un contact avec les éléments. Et moi, ça me saute aux yeux quand je vois cet espace végétalisé. Les hôpitaux où j'ai travaillé en tant qu'interne, même en tant que chef de clinique, il y avait des espaces comme ici de circulation et où on pouvait laisser les malades sortir. Aujourd'hui, quand vous mettez des gens dans un univers où ils ne peuvent absolument pas sortir pendant leur temps d'hospitalisation, la pression est évidemment beaucoup plus forte, d'où un régime de rapport de force et de violence entre le personnel soignant et les malades plus important, et ça on ne peut pas le négliger. Je pense que le fait de pouvoir aussi laisser un peu de liberté dans un espace sous surveillance, ça n'est pas négligeable.
J'aimerais qu'on parle, Michel Kerr, puisque vous êtes historien de la psychiatrie, de la période de l'occupation, qui n'a été une partie de plaisir pour personne, mais qui pour les aliénés, et ES par exemple, a été épouvantable.
La famine a régné dans la quasi-totalité des établissements psychiatriques français à partir de 1940, on va dire. Et de manière assez nette...
Je crois que c'est dans un document que vous avez établi, en 1941, à Maison-Blanche, il y a 694 femmes qui meurent de faim.
C'est absolument énorme et abominable. Alors, le problème s'est posé à partir du moment où on a introduit un système de rationnement alimentaire. Bon. Mais pas seulement alimentaire, hein, parce qu'il y a eu le froid aussi qui s'est rajouté. Et en plus de ça, la tuberculose qui a flambé. En tout cas, le rationnement, les restrictions alimentaires, donc des cartes d'alimentation, et le standard des rations prévues par les cartes de la grande majorité de la population, ne permettait pas, sinon de survivre, du moins de manger à sa faim. Donc les gens qui avaient des visites, les gens qui travaillaient dans les cuisines, les malades qui travaillaient dans les cuisines, il y avait beaucoup de malades travailleurs à cette époque-là, hein. Les gens qui recevaient des colis pouvaient arriver à peu près à se maintenir. Les personnes qui étaient abandonnées par des familles qui n'étaient pas en mesure, soit qui avaient quitté la région, soit qui n'étaient pas en mesure d'aider leurs proches qui étaient internés, soit des gens complètement isolés, n'ont pas pu s'en sortir. On a évalué, à mon avis, à assez juste titre, le nombre de personnes qui sont mortes dans les hôpitaux psychiatriques entre 40 et 44 à 45 000.
C'est au point, ai-je lu aussi, que parfois les patientes de Maison Blanche, par exemple, cueillaient dans le parc des champignons et les consommaient tout crus sans se préoccuper de savoir s'ils étaient comestibles ou vénéneux.
Voilà.
Et donc s'intoxiquaient parfois gravement jusqu'à la mort.
Oui, il y a des observations qui ont été publiées à l'époque, hein, ou qui ont été rapportées dans des congrès ou autres, où on décrit des situations absolument effrayantes, où les malades mangent de l'écorce des arbres, mangent l'herbe qui peuvent arriver à trouver dans les jardins, les plantes, les champignons, effectivement, ça c'est quelque chose qui a été décrit. On est même allé jusque à décrire des situations où les malades mangeaient leurs propre doigt.
On pourra prendre celui-ci, mais on pourra en prendre un autre. C'est un couloir. Un des fameux couloirs de l'Asie, parce que pour corroborer ce que tu disais tout à l'heure là, sur ce paysagisme ouvert comme lieu aussi de l'apaisement, à contrario, on se retrouve d'un seul coup dans des couloirs comme ça, très carcéraux, très enfermés, hein, avec une ligne de fuite, une perspective. Donc ça, c'est c'est un marronnier de photographe, effectivement, de prendre ces couloirs en perspective, parce que les portes se font face.
Des chambres de malades de chaque côté.
Voilà, mais on retrouve l'univers carcéral, on retrouve l'univers hospitalier, et on retrouve ces verrous, on retrouve les fenestrons.
Et les toilettes au bout du couloir.
On retrouve au bout du couloir. Si on avance un peu, si vous voulez, on va... Ouais, bon, alors, là, c'est une typologie différente, mais on retrouve là les anciens fenestrons, les verrous. Hein, tout était accessible depuis l'extérieur, en fait. Donc, si on avance... Alors, je ne sais plus si j'ai photographié ici en particulier, mais en tout cas, la typologie est sensiblement la même partout. Hein. Voilà. Des chambres assez petites en fait. En vérité, vous voyez, on voit la tête de lit. Hein. Il y a toujours l'espace carrelé qui correspondait au petit coin sanitaire en fait. Hein, vous voyez. Donc, on imagine qu'il y avait le lavabo là. Généralement, il y avait des radiateurs sous les fenêtres comme ça, les patères.
Il y a encore un peu de plomberie.
Oui, un peu de plomberie. Et puis là, on imaginait le lit, quoi. Donc, voilà. Donc là, il n'y a pas de contrainte au sol sur des lits qui sont verrouillés, parce qu'il y a des espaces où les lits étaient verrouillés au sol, enfin, vraiment boulonnés. On voit dans les sommiers, que ce soit des structures de bois avec des espaces pour faire passer des ceintures, donc pour ceinturer les aliénés quoi, sur le lit, pour vraiment les contraindre. Là, on imagine que ce sont plus des chambres pour des patients qui sont pour des troubles plus modérés, en tout cas. Et qui montent sur le parc. Oui, à chaque fois, ce que je disais, ces fenêtres, c'est cette vocation à chaque fois de, quand même, dans le soin d'apaiser, de trouver les moyens de l'apaisement dans ces formes de soins.
Comment ça se passait, le travail des patients et des patientes, du point de vue de la rémunération ?
Le travail en psychiatrie, à partir du 19e siècle, ça a été considéré comme thérapeutique. Et c'était aussi pour le plus grand bien des finances de l'établissement, évidemment. Hein, puisque quand on a mis fin à ce système, il a fallu recruter du personnel et le payer, évidemment. Hein. Tandis que les malades qui travaillaient avaient quand même un certain nombre d'avantages, notamment en nature. Ça dépendait où ils travaillaient. Hein. Par exemple, la Maison Blanche, femmes, cuisine, alors épluchage, je sais pas quoi, enfin, transbahutage des marmites, la buanderie, la lingerie, la couture. Et c'était une source d'emploi, entre guillemets, pour les malades, qui étaient valides et qui n'étaient pas trop indociles, on va dire. Et on ne demandait pas un rendement, mais il fallait quand même que la personne travaille pour de vrai, quoi. Et alors, donc, en contrepartie, elle pouvait avoir, donc, par exemple, pendant la guerre, ça a été très important pour celles qui travaillaient dans les cuisines. Donc, elle pouvait avoir un peu à manger, pouvait même se servir elle-même. Et puis, d'une manière générale, elle touchait un pécule. Donc, le pécule, c'était une sorte de rémunération, mais de bas niveau, pour des personnes.
Dérisoire.
On peut le dire, oui.
Femme qui s'appelle Marie Maillet Vitiello, qui est la créatrice d'un objet que nous verrons, qui est assez sidérant, qui s'appelle la robe de la reine. Elle est restée à Maison Blanche de 1937 à 1989. Ça fait quand même 52 ans.
Alors il faut le voir de plein de façons différentes. Enfin, premièrement, on est encore au balbutiement de la psychiatrie et les moyens ne sont pas forcément extrêmement étoffée pour soigner ces malades et leur permettre de rentrer chez elles. Donc, ce qui justifie des hospitalisations très longues. Mais qui dit hospitalisation dit aussi protection très longue. Aujourd'hui, vous avez les malades peuvent sortir plus vite, peut-être grâce au traitement, mais certains finissent dans une forme de déshérence parce qu'il n'y a plus les moyens de les accueillir dignement de manière durable. Donc il y a quand même cette différence. D'un côté, c'est extrêmement long, et aujourd'hui, vous avez des pressions, on va dire institutionnelles, pour pas dire administratives, pour que les malades sortent. Là, on avait les moyens de les garder très longtemps, de les protéger très longtemps.
Avec des permissions de sortie ?
Avec des permissions pour certains, j'ose... Enfin, ce qu'on découvre dans les dossiers, c'est que certains sortaient au bout de plusieurs mois, voire années, et revenait quelques temps plus tard. Paradoxalement, on pouvait penser que celui d'enfermement ne souhaitait que le quitter. Il y a un échange de courriers entre deux femmes qui est extraordinaire dans un des dossiers où l'une d'elles ne cesse de lui dire « J'espère pouvoir revenir bientôt te rejoindre ». Elle parle à son amie qui est encore à Maison Blanche. Et pour elle, c'est un crève-cœur d'être sortie. Elle explique même comment elle a pu essayer de convaincre son mari de la ramener. Elle n'a pas été acceptée à Maison Blanche. Et donc, un lieu où une amitié s'est nouée et qui justifie cet espace de protection.
Il y en a une autre, Franck Enjolras, qui écrit « J'aimerais mieux faire 6 mois de prison que d'être à Maison Blanche ».
Évidemment que les deux attitudes existent et que le personnel soignant, face aux difficultés de la maladie, peut devenir extrêmement négligent ou agressif avec les gens dont ils ont la charge. Et je pense que c'est exactement le cas à l'époque de l'asile, tout en sachant qu'on n'avait pas de moyens thérapeutiques comme aujourd'hui. Et donc, ça pouvait être un lieu extrêmement compliqué de violence. Je pense que quand les femmes étaient dans des états critiques, les rapports de force devaient être extrêmement importants, d'où l'imaginaire de l'asile. Il repose sur certaines vérités.
Quittons un instant Maison Blanche et traversons la route nationale pour entrer à l'hôpital Ville-Évrard, toujours en fonction, et pour admirer une robe extravagante conçue par une patiente, à la confection de laquelle elle a consacré plusieurs dizaines d'années de son internement. Le nom de ce vêtement a nul autre pareil, la robe de de la reine, Maria Brinco de Freitas.
Oui, c'est une robe, donc dite la robe de la reine, cette dame, Madame Vitellio Maillet, est décédée en 89. Et donc, depuis 89, la robe était, a rejoint ce service d'où elle faisait partie et était, on va dire, dans un bureau d'abord de médecin, puis dans le bureau de la cadre infirmière, directrice de l'école d'infirmière.
C'est ce qu'on appelle un objet d'art brut.
C'est aujourd'hui ce qu'on appelle un objet d'art brut, oui, tout à fait. Cette dame a confectionné cette robe totalement seule. Et ça a été...
Il faut faire un effort de description.
Qu'est-ce
c'est
que...
C'est très multicolore, les matériaux sont c'est un objet, variés.
On imagine que c'est sur la robe de bure qu'elle avait. La seule chose, c'est que vous pouvez toucher, c'est un très très épais et très très lourd. C'est quand même une robe très très lourde à porter et très très épaisse.
Son autrice l'a portée.
L'a portée, oui.
À l'hôpital?
Elle la portait, oui, au moins tous les dimanches pour aller à la messe.
C'est parce que c'est...
Avant, elle est très lourde.
C'est et totalement extravagant.
Exactement. Elle se disait reine, elle était reine, et c'est bien pour ça qu'on l'appelle la robe de la reine, cette robe. Donc c'était son habit d'apparat quand même, c'était son habit.
Quand vous dites que c'est lourd, oui, Maria Brinco de Freitas, ça pèse quel poids?
Alors justement, on est en train d'essayer de la peser, mais pour l'instant on n'a pas les moyens justement de la peser.
Ah bon?
En tout cas, la couronne pèse, elle, 1,5 kg, donc elle est très très lourde.
Ah oui.
Elle la portait aussi, hein. Vous la voyez là, avec cette petite couronne. C'est une petite, petite bonne femme, toute petite. Et la robe est très très lourde, elle est à 3 épaisseurs, on va...
Les matériaux employés, c'est...
Alors, c'est uniquement...
De la laine,
là,
du coton...
Là, vous voyez de la laine, du coton, du coton à broder.
De la soie,
toutes
peut-être,
les couleurs. Hein. Il y a de la soie, il y a du polyester. Il y a beaucoup de soie, ça, c'est sûr. Là-haut, c'est des colifichets, je ne vous l'enlève pas, mais il y a vraiment toutes sortes de breloques, hein, y compris...
Métalliques,
bien sûr, et que lui fournissaient les infirmières. Les infirmières lui donnaient une petite broche, elle remettait sur sa couronne.
Quelle couleur on trouve sur cette extraordinaire objet?
Voilà, alors effectivement, les couleurs sont très très belles. C'est vous trouvez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est le cas de le dire, avec une harmonie parfaite, parce que vraiment, c'est vraiment très très beau. Vous avez toutes les couleurs, ça va du bleu au jaune, au vert. À l'arrière, vous avez des choses très très belles qui sont une maison, vraiment une maison faite donc en broderie.
Vous avez une idée de la réaction des gens qui voyaient cette personne dans
vous
cette
savez,
robe
on est quand même oui, j'ai une petite idée, mais en même temps c'est une fausse idée. On est quand même dans une commune, Neuilly-sur-Marne, qui a longtemps eu deux hôpitaux psychiatriques, donc deux gros hôpitaux psychiatriques, donc l'un en face de l'autre. Donc on va dire, rien n'est étonnant. On connaît, moi-même j'ai habité Neuilly-sur-Marne pendant une époque, moi-même j'ai beaucoup raccompagné de patients avant même de travailler ici. On va dire, c'était assez habituel de croiser quelqu'un habillé d'une manière extravagante. Je ne pense pas que ça portait, c'est joli en plus, c'est une belle robe, on va dire. Je ne pense pas que ça attirait le regard d'une manière péjorative, peut-être au contraire.
Est-ce qu'on sent d'une manière ou d'une autre la persistance de la présence des patientes?
Peut-être que je suis habité par... Moi c'est quelque chose qui m'a perturbé quand j'étais là-bas. C'est que j'avais le sentiment d'entendre des cris. Ouais.
On a du mal à imaginer 3000 personnes ici. Alors 3000 malades, sans compter le personnel... qui devait être aussi un chiffre considérable. Donc il y avait une vie totale. On était face à un petit village. Donc c'est très très difficile, même si aujourd'hui on a des cartes postales, on a quelques... qui traduisent plus la vie quotidienne. On voit les réfectoires, on voit le quotidien de ces malades. On a vraiment du mal à se représenter comment ça pouvait fonctionner avant 14, comment les choses s'organisaient. Donc c'est vrai que on cherche. Enfin vraiment, on est face à quelque chose. On a du mal à saisir. Tout à l'heure, une fenêtre.
Il y a des mystères.
Il y a des mystères. Oui, des mystères. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce lieu est lourd de fantasmes. Donc très vite, on peut se laisser guider dans tout un tas de choses À l'instant, une fenêtre bougeait derrière nous. L'impression que des fantômes sont là, mais je me méfie de cette vision fantomale, parce qu'on va très vite sur un terrain glissant, un peu sinistre, et alors que vraiment, moi j'essaye de me dégager de cette vision-là pour en donner une autre lecture.
Sinistre n'est pas le mot, à vrai dire. Il fait beau aujourd'hui.
Pas aujourd'hui, mais on pourrait, si on revenait... je sais pas, en plein hiver, comme on a pu le faire avec Jean, sous une tempête de neige, ça prend une toute autre atmosphère du fait de la vacuité des lieux. Enfin, comme il n'y a personne, ça renforce ce caractère sordide. Mais c'est pour ça que c'est un univers, et je pense que tous ces lieux qu'on a laissés à l'abandon, c'est compliqué de retrouver leur histoire, de les réincarner pour voilà, sortir de certains fantasmes.
Si j'ai bien compris, après la fermeture de l'hôpital Maison Blanche où nous sommes, les lieux ont été fréquentés. Jean Neuviel, vous avez ramassé tout à l'heure une douille par terre.
Oui,
on se demande un peu ce que ça fait là.
Une douille, oui, c'est vrai que moi ce lieu je l'ai découvert dans le cadre de mon travail dans le cinéma, donc, puisque je travaille dans le décor de cinéma, donc on a aménagé ici, on est tout près du pavillon où on avait aménagé donc, un décor de film. Film de Malik Chiban qui s'appelle Les Enfants de la Chance, voilà, qui se passait dans les années 40, donc on fait notre décor ici, mais non loin de là où on travaillait, il y a un autre bâtiment un petit peu plus loin, où là c'était le GIGN qui s'entraînait à des exercices d'intervention en milieu urbain.
Ça tirait dans tous les sens.
Oui, ça tire à blanc bien sûr, hein, mais enfin ça fumigène, explosif, ils faisaient péter des bouts de bâtiments, des portes, etc. Il y a eu aussi une série qui a été faite sur le tueur en série Guy Georges dans ces bâtiments. Il y a eu évidemment des graffeurs, des squatteurs, il y a eu des différentes populations. C'est aussi le texte que Franck a proposé dans le Grand Renoncement, dans notre bouquin, c'est cette idée que l'asile a continué d'accueillir malgré son arrêt en termes de purement de soins. C'est un lieu qui a toujours continué à accueillir ici. Donc il y a eu un festival de cinéma de plein air, des défilés de mode, il y a eu donc plus récemment une communauté de Roms qui s'est installée ici, il y a eu les animaux du cirque d'hiver aussi qui venaient paître en été pour éviter un peu la canicule.
Dernièrement, comme j'allais pour déposer pour faire arrêter la blanchisseuse pour faire une perquisition, quand elle a vu que j'allais la faire arrêter, elle a suggestionné, elle et son mari, pour me faire arrêter à la justice. Quand votre homme de confiance m'avait dit « Avancez, je vous suis pour ne pas faire voir que je suis avec vous », je l'ai vu qu'elle se sauvait chez les nouvelles blanchisseuses. C'est là qu'elle a envoyé les deux nouvelles blanchisseuses résurrectionnées, qu'elle a envoyées comme faux témoins, pour me faire passer pour une alcoolique. C'est le mari de la blanchisseuse qui m'a fait passer pour une alcoolique en téléphonant. Je crois, monsieur le secrétaire, vous m'avez bien vu dans votre bureau. Vous avez dû remarquer que ce n'était pas dans mon habitude de me mettre dans des états semblables. Je comprends. S'il y avait eu une plainte portée contre moi pour me faire arrêter, mais je suis victime d'être enfermée par le mari de la blanchisseuse sans en avertir mon mari légitime. Vous auriez dû voir que je n'étais pas folle pour me faire enfermer dans une maison d'aliénés.
On a un courrier expédié de Maison Blanche par une patiente qui est manifestement délirante, Franck Enjolras.
Oui. À l'image de toutes ces femmes, je crois qu'on a découvert à travers ces courriers, elle griffonne son vécu et elle l'envoie certainement à l'administration de l'hôpital ou à quelqu'un de l'hôpital, et on découvre tout cela dans le dossier.
Accessoirement, j'ai bien envie de vous citer une devise de l'Urbex qui est
ne prendre rien d'autre que des photos, ne laisser d'autres traces que celles des pas. Parce que vous avez un peu outrepassé, je crois.
Oui, on peut dire ça comme ça, et en même temps, je pense que ce cheminement qu'on a fait ensemble, alors d'abord, nous, on ne vient pas forcément de l'urbex, hein, je le répète, ce cheminement qu'on a fait ensemble, nous n'avons fait que laisser des pas, les photos que j'ai faites sont maintenant dans le livre, mais il était impensable pour nous de laisser ces archives-là à la merci des bulldozers, quoi, et de la destruction. Donc la volonté première qu'on avait, c'était de sauver cette histoire, qui est aussi notre histoire. Enfin, l'histoire de ces femmes est notre histoire. Elle appartient à une mémoire collective qu'on se devait de vouloir protéger.
On est dans le registre des citations. J'en ai une de Georges Didier Huberman. Toute survie cherche la forme efficace où se lever.
Donc, c'est énigmatique, ça.
Alors, c'est énigmatique, mais il y a quelque chose de l'ordre de la survie et de la protection. Et peut-être qu'on a été cette forme-là efficace pour cette protection de ces dossiers, et surtout de leur contenu, de ces courriers, de ces lettres, de ces notes qui appartenaient à ces femmes et à leurs familles. Donc oui, on a fait le nécessaire dans un moment de transgression et d'interdit. Et comme le disait Jean, c'est assez singulier de se retrouver là dans un format officiel. Il y a quelque chose d'assez, émotionnellement assez fort, parce qu'on peut-être que d'autres auraient fait exactement la même chose que nous. Peut-être que ces dossiers auraient fini vendus à la sauvette je ne sais où, ou détruits tout simplement. Oui, ça, être face à ce bâtiment alors qu'il est aujourd'hui complètement muré par des moellons, ça rend les choses encore plus austères. Mais voilà, moi je pense à ces courriers, notamment le premier courrier qu'on avait attrapé avec Jean ensemble ici, quand on est revenus tous les deux, où la lecture était plutôt assez facile, et c'est un des premiers courriers sur lequel j'ai travaillé, où un homme, un mari, écrit au médecin de sa femme et lui demande s'il peut apporter de la nourriture supplémentaire. Il remercie les infirmières. Donc il y a une dimension émotionnelle très forte. Donc
c'est très touchant.
Oui, je pense à ce courrier là à l'instant. Vraiment, c'était le point de départ de cette collaboration avec Jean. Et c'est vraiment à l'image de cette rencontre, de notre rencontre et de cette rencontre avec les lieux, de cette rencontre avec cette mémoire de ces femmes. Voilà, donc c'est assez émouvant.
L'asile pour femmes de Maison Blanche. Avec Jean Noviel, photographe et décorateur, Franck Angelras, psychiatre, Michel Kerr, psychiatre et historien de la psychiatrie, Maria Brinco de Freitas, du musée de l'hôpital Villévrard. Texte lu par Nathalie Duong. Le Grand Renoncement, par Franck Angelras et Jean Noviel, est paru en 2021 aux éditions Locaux. Merci à Timea Jankovic, aux Archives de Paris, à Grand Paris Aménagement, à la Société d'études et de recherches historiques en psychiatrie et à l'hôpital Sainte-Anne. Documentation Annelise Signoret, recherche musicale Antoine Vuillose, bibliographie, liens et podcasts sur franceculture.fr. Coordination Johanna Bedeau, attachée de production Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Un documentaire d'Olivier Chaumel, réalisé par François Test.